Bonjour, Fan Solo sur Orléans. Je voulais juste savoir si la rupture tranquille, c'était une idée de Cécilia Sarkozy. Voilà, merci, au revoir.
C'est le Café Repère de Metz. Alors, on vous invite tous à venir découvrir le nouveau Repère de Metz au Café de la Renaissance. C'est toujours le 6 de chaque mois, donc ce sera ce mercredi 6 décembre à 6h du soir. Eh ben, le thème, ce sera pour les 20 ans de la mort de Malik Houssekine. On va faire un petit débat, discussion sur sécurité, respect, prévention, délinquance, abus, etc. Eh ben, on vous attend tous aux deux rues Vignier-Saint-Avold, à Metz, voilà, à 30 mètres de la place des Charons. Allez, ciao!
Eh oui, longtemps je me suis levée de bonne heure en me disant tout sauf Sarkozy. Et puis, au fil des mois, il y a à peu près un an, je me suis dit, non, c'est absolument impossible, ce type. Il n'a pas de programme, il n'a pas d'idée, il fait des coups. Il fait des coups, il utilise des stratégies archi connues de communication, de décryptage du langage, etc., etc. Et puis j'apprends qu'hier soir, moi je n'y étais pas, j'étais au cinéma, 5 millions de Français ont regardé Arlette Chabot, vous savez, celle qui fait la bise à François, Jean-François Copé à la fin d'une émission, Arlette Chabot qui recevait Nicolas Sarkozy. Alors, paraît-il, c'était très drôle, hein, puisque ce matin, chez Colomb-Schneck, on a entendu une émission désopilante d'une demi-heure avec des gars tout à fait intéressants qui décryptaient son langage. Et je me suis dit, il doit y avoir encore beaucoup de Français et peut-être beaucoup d'auditeurs parmi les amis de la Bastille. J'y suis, qui ont l'intention de voter contre. Hein, de voter contre, c'est absolument désespérant qu'on ait comme choix de voter contre, c'est-à-dire contre Sarkozy. Et en écoutant cette émission, eh bien, j'ai appris que, en fait, lui, Sarkozy, son langage, il est uniquement positionné contre, ou peut-être aussi avec Ségolène Royal. Il utilise, d'après les journalistes qui ont décrypté son discours d'hier soir, ses interventions d'hier soir, jeudi 30 décembre, chez Arlette Chabot, apparemment, il semblerait que son seul programme, eh bien, c'est d'utiliser les mots de Madame Royal, de les réutiliser, de les transformer, de les déformer. Bref, c'est bien ce que je pensais. Ce type-là n'a pas de programme. Alors moi, j'ai pas peur. J'ai pas peur et j'aimerais bien qu'on puisse faire autre chose que de voter contre. Je vous embrasse tous. À bientôt. Merci Daniel pour l'émission sur Warfarka.
Juste un petit message, j'écoutais samedi Gus de l'UMP qui nous expliquait que tous ceux qui étaient à jour de cotisation au 31 décembre pouvaient voter pour les fameuses primaires de l'UMP. Ben moi vous savez quoi, je me demande si je vais pas carrément prendre ma carte de l'UMP, histoire de voter contre Sarkozy avant même les présidentielles. Et je me dis que ils sont combien là-dedans? 150, 200 000? Si on se met à un certain nombre à faire ça, vous imaginez le hold-up parfait, ça serait magnifique, non? Allez, en attendant, bonne journée, et puis sérieux, on y réfléchit à ce truc-là, en tout cas, moi, je vais le faire. À bientôt, ciao.
Bonjour, nous sommes lundi après-midi, je viens d'écouter votre émission, là-bas si j'y suis, très intéressante, mais pourquoi l'avoir terminée avec cette chanson grotesque, dans laquelle on a pu entendre « Quand les secrétaires changeront de genoux ». Ouf. Encore un effort, messieurs. C'était Michel Anne, du fin fond de l'Hérault. Au revoir.
Ouvrez les guillemets, tirez les rideaux. Sur la scène, le débat politique prend la place. Imaginez-vous un instant, une grève des intermittents. Surprise, bien sûr, juste la veille des élections présidentielles. Tirez les guillemets, les cornes des taureaux. Dans l'arène, le débat politique prend la place. Imaginez les candidats. Le premier tour à la corrida, du sang, des molars, de la chair, combat de coq sur la première. Fermez les guillemets, ouvrez vos clapets, sur la piste le débat politique c'est le cirque. Imaginez-vous un instant, Madame Sego en clown blanc, le nabo avec un nez rouge, JMLP en dompteur d'éléphant. Ça présage d'un beau bordel, les élections présidentielles, signe de mauvais augure, oiseau de malheur en sinécure. Nous saurons faire face à ces rapaces, à ces menaces. Dès demain, à la télévision, la suite et la fin du feuilleton. C'était Dave à Moissac, ciao.
Bonjour Daniel, guide de la région lyonnaise. Je voudrais ce lundi 4 décembre saluer la victoire du Hugo Chavez au Venezuela. Cette victoire électorale est la preuve que les défis de Chavez portent ses fruits, ceux d'une politique de rupture avec l'ultralibéralisme, c'est-à-dire une alternative politique de justice sociale par la répartition des partages des richesses créées. Mais le Venezuela reste encore fragile et menacé par les États-Unis qui ne peuvent supporter l'émancipation des peuples. Il est donc important qu'à l'Occident, nous puissions être informés de ce qui se passe réellement au Venezuela. Les grands médias passent plus de temps à critiquer l'homme que à révéler réellement les effets de sa politique. Je pourrais profiter et faire référence à ton brillant reportage d'il y a quelques mois sur le Venezuela. Ça pourrait être l'occasion de le repasser aux auditeurs, mais aussi rappeler qu'il existe encore une presse, certes, qui a peu accès au grand public, mais qui est une presse d'opinion, certes, mais d'investigation. Je pense à parfois des grands articles dans Libération et du journal L'Humanité.
Eh bien, à la demande générale de cet auditeur, non, de quelques autres quand même, eh bien, effectivement, on va revenir au Venezuela. On vous avait présenté une série de reportages en début 2005, et on va voir si ça a vieilli, si on s'est trompé. C'est possible, après tout, hein, ça nous arrive même assez souvent, tout pour tout dire, et vous ne nous loupez pas. Effectivement, aussi, vous le savez, Hugo Chavez a été réélu dimanche avec 62% de voix contre 38% à son rival, le social-démocrate Manuel Rosales. Et ça, c'est intéressant parce qu'à l'époque, quand on était au Venezuela, à Caracas, en décembre 2004, on a vu se constituer une opposition. Et ceux qui avaient perdu le pouvoir étaient furibards, pensaient qu'ils pouvaient revenir uniquement par coup d'État, par le moyen du coup d'État. Ben finalement, non, ils ont constitué une opposition démocratique. Et l'adversaire malheureux de Hugo Chavez a reconnu, a dit ça s'est passé correctement, voilà maintenant ben nous partons en campagne. Donc il y a une vie démocratique qui s'installe dans ce pays et les résultats ne sont pas contestés ni au Venezuela ni aux États-Unis. Ce que dit cet auditeur est bien sûr réel. La grande question Venezuela, comme dans beaucoup de pays au monde, mais enfin parfois plus cruellement encore en Amérique latine qu'ailleurs, c'est l'affaire de la répartition des richesses. Et au Venezuela, c'était particulièrement monstrueux et particulièrement ubuesque. C'était et c'est en voie de résorption, disons là, les inégalités. Mais on est encore évidemment loin du but. Voilà, c'est aussi une émission, un retour au Venezuela pour à l'attention de certains confrères qui, à l'occasion de la fin de Pinochet et en parallèle avec la fin de Fidel Castro, amalgament le destiné de ces deux figures de l'Amérique latine. Faire l'amalgame, c'est tout simplement ignorer l'histoire, c'est insulter l'Amérique latine elle-même. Ça fait quand même pas mal de monde. Et c'est aussi faire preuve d'un engagement sournois et hypocrite, et peut-être qu'il s'ignore lui-même. Voilà, petit coup de gueule. Ah, et une phrase envoyée par un auditeur sur le mail que je trouve particulièrement savoureuse, et qui est la suivante, c'est Philippe Kuhn qui a envoyé ça. Écoutez bien, la notion de ce qui est juste et injuste s'estompe lorsque nous acquérons le pouvoir d'abolir nos propres privilèges. Je recommence. La notion de ce qui est juste et injuste s'estompe lorsque nous acquérons le pouvoir d'abolir nos propres privilèges. Voilà. Venezuela, auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la Bastille. J'y suis au 01 56 40 37 37.
Au centre de rétention de Lyon, 61 détenus ou retenus viennent de se mettre en grève en soutien avec la famille Rabat qui sera bientôt expulsée au Kosovo, dans lequel elle risque la mort puisqu'ils ont fui le Kosovo menacés par les anciens de l'UCK. C'est une famille avec 3 enfants. Les détenus de Lyon se sont mis en grève de la faim en solidarité avec eux et aussi pour protester contre le suicide d'un jeune détenu turc au centre de rétention de Marseille. Il se passe vraiment des choses très très graves dans les centres de rétention actuellement. Les grévistes de la faim sont menacés, on leur fait du chantage, on leur propose de la prison. Je pense qu'il faut maintenant commencer à réagir, envoyer des fax au ministère de l'Intérieur et au ministère de la Défense, puisque Madame Alliomari doit affréter un avion mercredi pour le Kosovo, spécialement pour cette famille avec 3 enfants qui vivaient tranquillement dans Haute-Saône. Merci.
Et je viens d'avoir aujourd'hui, après mon licenciement d'Airbus, enfin du moins sous-traitant, parce que Airbus ne licencie pas, c'est bien connu, j'ai obtenu mes droits aujourd'hui aux ACEDIC. Donc je gagnais plutôt bien ma vie. Et puis là, je me retrouve avec même pas 50% de mon salaire en indemnité de licence, en indemnité d'ACEDIC. Et pendant ce temps-là, nos enculés et nos putains d'enculés de politique se payent des salaires de ministres de la République congolaise ou de président dictateur. Voilà, c'est une honte. Salut.
Bonjour à tous. Voilà, je vous appelle pour vous faire part d'une mauvaise nouvelle. J'avais envie de la partager avec vous tous. Je suis pas la seule. Donc l'équipe de Zalia TV, l'Institut Charles Gros, ses innombrables amis et camarades de Lunel, Montpellier, Nîmes, Marseille, Paris et du reste du monde partagent la stupéfaction et la douleur de la famille du cinéaste Mohamed Bouamari, qui a rejoint prématurément les terres que l'on souhaite généreuses de la vallée des hommes libres. Homme et artiste hors du commun, infatigable militant anticolonialiste et combattant permanent pour l'émancipation des peuples et des êtres, puits de savoir et de connaissances, débordant de générosité, de vie et d'utopie. Bouam laissera à ceux qui ont eu le bonheur de le côtoyer un souvenir d'humanité et d'espoir impérissable. Ceux qui le découvriront par son œuvre seront convaincus que le cinéma peut lui aussi transformer les êtres et le monde. Si tant est que les francs-tireurs de cet art, devenu depuis longtemps une industrie, puissent encore conquérir les moyens de s'exprimer. Voilà, bah c'était pour pas qu'on oublie Bouam. Puis je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis, à bientôt.
Bonjour Daniel, et mes félicitations pour cette émission d'hier encore sur la déréglementation qui date de 1986, sous un gouvernement socialiste, merci de le dire. J'apporterai une petite nouvelle supplémentaire. Le deuxième candidat, c'est celui qui travaille au Karcher. En 93, il était bien ministre du budget. Eh bien, c'est lui qui a sorti une loi permettant de favoriser les fonds de pension au niveau de l'impôt. C'est-à-dire qu'en définitive, eh bien, les gens ont intérêt à prendre, les financiers ont intérêt à prendre des actions de fonds de pension pour pouvoir le placer en France. C'est-il pas beau, ça? Alors là où il y a problème, c'est que on va voter pour ces deux engins-là? C'est quand même pas possible. C'est quand même pas possible que les Français se laissent aller encore à ça. Bon, alors, il faut faire quelque chose pour les collectifs antilibéraux, hein. Parce que si on fait pas quelque chose, là, on va se le reprocher toute notre vie, hein. Tout simplement, hein. Voilà, mon petit Daniel. Et merci encore. C'était Guy Détré. Salut.
Salut Daniel, bonjour à tous. Petit rappel des AMG de Bègle pour le prochain repère qui se tiendra le 7 décembre chez Françoise au Poulailler, place du 14 juillet, et donc on parlera de l'utopie. En fait, on verra où on en est de nos utopies, on verra quel est l'espace que notre monde globalisé réserve à l'utopie, on verra si l'utopie est condamnée à occuper le strapontin de la réelle politique, enfin... On verra tout ça, quoi. Donc venez nombreux le 7 décembre à Bègle, au Poulailler. Merci, salut.
Aquí he llegado con el sabor de nuestro ritmo, gran legado heredado de los rumberos de antaño. De muy pequeño asistí a esa escuela donde aprendí la clave a cantar como sonero, son montuno, rumba y salsa, fueron las primeras pruebas de los maestros. Benny, Cuni, Maelo, el conde Adalberto, Celia, Feliciano, Guatus y Oscar de León. Me transmitieron todo su conocimiento de la raíz de lo nuestro, lo importante en conservarlo. Aquí he llegado con el sabor de nuestro ritmo, les canta Cheo Linares, para todos los rumberos, mucha salsa, ritmo y clave. Ahí nada más, quiero mandar un saludo, tengo unos amigos, unos hermanitos allá en París,
Orlando Poleo, Carlos Espósito, Jesse Ramos, Alfredo Cutuflá, para ellos, afecto y cariño. Suerte.
Gracias. Muchas gracias.
Avenida 45, Centro 10. Buenas tardes.
Sí, quand même bien, c'est
Marie. Jamais ne sont esclaves.
Une république d'hommes libres.
L'éducation des enfants et des filles. La SNCA TP serait générale et constante.
L'enseignement doit être général et constant. Plus jamais nous ne serons des esclaves.
C'était la leçon 17, leçon 18, les coopératives, le sport et la récréation.
Et les loisirs.
Les sports et les loisirs.
Toutes les personnes ont le droit à pratiquer du sport et à pratiquer des loisirs.
D'accord. Donc ça, en fait, c'est un cahier
qui s'appelle « Maintenant, je peux lire ».
Maintenant, je peux lire, mais je découvre aussi mes droits. Je découvre la Constitution. Je découvre des grands principes universels.
Nous avons une nouvelle Constitution, leçon 3.
Ah oui, là, je peux lire.
Aussi moi aussi,
je peux lire.
Et après, on recopie la leçon 3. Nous, maintenant, nous avons une nouvelle Constitution. Et après, la phrase à recopier avec sa petite main qui a été annotée, c'est « Le songe de Bolivar est devenu une réalité. »
Bolívar el humanista. Igual que Martí, Bolívar el revolucionario. Bolívar y Martí alertaron de la amenaza del imperio norteamericano. Trascendieron su tiempo.
Salut, c'est Daniel Mermet. La passe et la cuisse avec qui vint-il et Antoine Chao ou Venezuela.
Arriving from República Bolivariana de Venezuela.
La base y
Juiz. Alors c'est très touchant parce que c'est un cours d'alphabétisation dans cette petite école de Caracas. Il y a évidemment au mur, on s'en douterait, un portrait de Chavez. Il y en a même un où Chavez est avec Fidel Castro à contre-jour avec un grand soleil qui se lève à l'horizon. Et puis au mur, eh ben, des cartes de l'Amérique du Nord, de l'Amérique du Sud, tout un tas de planches anatomiques sur le corps, sur l'œil, sur le cœur, sur les astres et évidemment sur Bolivar. Toute une série de gravures, de dessins et d'images qui représentent Bolivar avec la carte du pays. Et puis, sur des tables d'école, des dames, 5-6 dames, 5 exactement, qui sont en train d'apprendre à écrire. Et voilà, c'est un cours d'alphabétisation à l'intérieur d'un grand programme d'alphabétisation dans ce pays.
C'est cours de calligraphie, là. C'est très touchant parce que ces dames, c'est un peu des grands-mères quand même.
Ah oui.
Elles sont avec leur crayon de papier, la gomme à côté, en train de s'appliquer pour bien délimiter les lettres. Et il y a la jeune professeure qui leur écrit « Non, non, le L, faut que tu montes plus, faut que tu fasses bien la boucle. » Très appliqué avec des petits cahiers et de petites filles, t'as vu, avec des dessins dessus.
Se balader au Venezuela en ce moment, c'est... un peu regarder dans une rue, croiser dans une rue des amants jeunes et heureux. Voilà. Alors, vous êtes pris par des sentiments différents, ou bien ça vous rappelle quelque chose, et vous souriez, ou bien ça vous donne envie, ça vous donne des idées, et c'est bon pour vous, et vous souriez, ou bien ça éveille en vous des flots de regrets amers, et c'est un peu ce qui se passe autour du Venezuela depuis quelques années. Ce qui se passe dans ce pays est effectivement assez singulier, et c'est pour ça que nous sommes là, même si on arrive un petit peu après la bataille, il faut bien dire les choses. Le pouvoir actuel, la révolution bolivarienne, le processus bolivarien est bien enclenché. Le commandante Hugo Chavez a l'air de s'accrocher et de s'implanter, ce qui n'était pas évident ces dernières années. Et c'est une occasion, après tout, les choses se calmant un peu après ces luttes terribles, ce pays divisé en deux, qui l'est encore beaucoup plus profondément qu'il n'en a l'air, sans doute, et durablement. Mais c'est l'occasion de voir un peu les choses de façon un peu à distance. Et on va commencer par ce qui est ce dont cette révolution bolivarienne est la plus fière et met tout de suite en avant, c'est cette réussite qu'est l'éducation, l'alphabétisation massive depuis très peu de temps, depuis 2003, depuis un an et demi, on s'est lancé au Venezuela dans une campagne d'alphabétisation. Depuis son accession au pouvoir en février 99, Hugo Chavez, ancien lieutenant-colonel et auteur d'un coup d'État avorté, comme dit un journaliste qui travaille pour le courrier de l'UNESCO, c'est vrai que Chavez est l'auteur d'un coup d'État avorté en 1992. Et bien, depuis son accession au pouvoir, donc en fin 98, en février 99, il a entrepris une réforme de l'enseignement sans précédent dans l'histoire bicentenaire de ce pays. L'éducation avait souffert de la crise, nous dit toujours ce journaliste du courrier de l'UNESCO. Qu'est-ce que c'est que cette crise? Eh bien, c'est simplement que les dépenses en matière d'éducation étaient passées de 7,4% du produit intérieur brut en 1983 à 3,8% en 1998. Et selon ce journaliste, toujours, ce serait la crise qui expliquerait ça. Évidemment, en Amérique latine, c'est des lignes qui font des phrases et des idées qui font sourire. On sait très bien que c'est ce rouleau compresseur du libéralisme qui a fait de l'enseignement, dans la plupart de ces pays, un enseignement de caste et non pas un enseignement de classe, non pas un enseignement de masse, bien évidemment. Or, la révolution bolivarienne, avec à sa tête le commandante Chavez, veut une nouvelle éducation, veut une nouvelle élite, puisque une partie de l'élite, eh bien, est opposée à Chavez. Il faut bien en fabriquer une autre, il faut bien éduquer les gens dans un nouvel état d'esprit, et voilà ce qui explique cette campagne. Parce que c'est pas seulement l'alphabétisation, c'est tout une réforme, une vaste réforme de l'éducation, mais qui commence bel et bien par l'alphabétisation. Depuis que ce plan a été, cette mission, comme on dit en Venezuela, a été mise en place, le gouvernement affirme que plus d'un million, 1 200 000, 400 000, selon les sources, d'habitants du Venezuela ont appris à lire et à écrire et à compter. On est dans une de ces écoles, dans un de ces cours d'alphabétisation, quelque part à Caracas, dans le quartier de Manicomio, et on est accompagné par Alfredo, qui s'y connaît.
Tres. Sí.
Alfredo, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui se passe ici?
Cet ambiant est où se dicte la mission Robinson 2, de Yo si puedo seguir.
Alors cette salle, c'est l'endroit où est donné les cours de la mission Robinson 2.
Au Venezuela, on a procédé à une énorme campagne d'alphabétisation en l'espace de 2 ans.
Bien, lo que le estaba diciendo, aproximadamente 1 300 000 personas.
Donc approximativement 1 300 000 personnes.
1 300 000 personnes. Là, ce sont des dames d'un certain âge. Est-ce que ça veut dire que c'est tous les âges qui ont été concernés?
En la tercera, se ha visto el mayor auge de analfabetos.
Donc c'est dans le troisième âge qu'on a recensé le plus d'analphabétisme.
Alors, il faut combien de temps pour apprendre à lire et à écrire avec cette méthode?
El método 1 tarda 3 meses.
Donc la méthode 1 dure 3 mois, la première phase.
Uh-huh. Y la continuación dura 2 años.
Et la deuxième phase dure 2 ans.
De 10 à 14 heures de classe.
Donc c'est à peu près 14 heures par semaine, c'est entre 2 heures et 2h30 par jour.
On nous a dit que certaines personnes qui suivaient cette formation d'alphabétisation pouvaient recevoir des rémunérations, pouvaient toucher des bourses.
Le programme a une caractéristique de la personne à laquelle se le va autorgar la beca. Et ça, on le discute entre tous les alumnes.
Donc le programme permet de donner des bourses à des étudiants.
Entre eux, sont ceux qui déterminent à qui se le va donner la beca.
Donc entre eux, ils décident à qui va être donnée la
bourse.
Tienen que ser estudiantes. O sea, no puede estar faltando a clase para que también se le otorgue la beca.
Et bien sûr, il faut qu'ils soient assidus au cours pour garder le.
Et alors, au terme de cette formation, il y a un petit examen et on reçoit une bibliothèque.
Primera fase en Robinson 1, si dans la bibliothèque.
Et un certificat. Donc là, en fait, ce sont des gens qui sont en Robinson 2, donc ils ne savent pas s'ils auront la bibliothèque. Ils ont sûrement dû l'avoir à la fin de Robinson 1. Donc ils ont sûrement tous la petite bibliothèque chez eux déjà.
Elles sont très appliquées, les dames, hein. La gomme, le crayon.
Et là, je vois, c'est des grand-mères qui font des multiplications. Alors, c'est 12 fois 2, 3 fois 1. Et là, c'est de la copie. Donc là, elle est en train de se faire donner des devoirs par la jeune professeure, des additions.
Très touchant, hein. Bonjour.
Bonjour.
Vous apprenez à lire et à écrire?
Bueno, ahorita más a leer. Primero aprendí a leer. Más un poco que no sabía.
Escribir,
estoy aprendiendo a escribir. Editado, por lo menos, ya estoy recibiendo un poquito más.
Maintenant, je suis en train d'apprendre à écrire et la dictée, ça commence à aller un peu mieux.
C'est bien, c'est vous êtes contente?
Sí, por eso es que estoy acá.
Oui, c'est pour ça que je suis là.
Estoy acá para tratar de aprender, porque como ya estoy viejita, pero estoy tratando de aprender un poco más.
J'essaie d'apprendre parce que je suis un petit peu vieille, mais je veux en savoir un peu plus.
Las camionetas, por lo menos cuando las voy a agarrar, que no me cuestan tanto leer la camioneta.
Donc maintenant, quand je dois monter dans un bus, dans un petit bus, j'arrive à lire les directions et c'est plus facile.
Ah bah oui, c'est mieux. Mais comptez, vous saviez compter?
Contar sí, por contar sumas grandes mucho todavía estoy tratando de aprender.
Pas des trop grosses additions, maintenant je suis en train d'apprendre à compter beaucoup plus.
Estoy tratando de aprender contar porque tengo una quincalla y entonces.
Oui, parce que je suis marchand ambulant, j'ai une petite quincaillerie ambulante, donc savoir compter, ça va vraiment me faciliter la vie.
Ça, c'est précieux.
Sinon, on me roule, quoi, on me vole.
Mais comment se fait-il que vous n'aviez pas, appris à lire et à écrire à l'école?
Non, non pude. Se murió mi mamá, se murió mi abuela.
Ma mère est morte, ma grand-mère est morte.
Cuando iba a empezar a trabajar para ponerme en un colegio, ellas se murieron.
Quand je devais entrer à l'école, ma mère est morte et après ma grand-mère, donc j'ai pas.
Puro trabajar, puro trabajar.
Je me suis mise à travailler.
On vous a offert des livres, on vous a donné une bibliothèque?
Ah, sí, como no, bien bonita.
Ah,
la
oui,
tengo
oui,
en casa.
Donné, elle est bien belle.
Et también tengo mi diploma.
Et j'ai mon diplôme. J'ai
un diplôme de primer. Tengo mi diploma.
Du premier stade.
Si.
Elle est fière, hein? Mm-hmm. Et qu'est-ce qu'il y a comme livre là, dans la bibliothèque?
Comment que se llama? Estos de. Ay, ya le voy a decir Don Quijote.
Don Quichotte.
Y tiene también, ¿cómo que se llama eso? Poema. Tiene poema. Muchos no los he leído, porque las letras como están pequeñitas.
Les lettres sont toutes petites.
Ah oui. Alors, c'est bien ce qui vous arrive.
Sí, sí, estamos cambiando otra
forma. On change vers d'autres formes.
Otra vida, pues.
Une autre vie.
Otra vida porque el presidente nos apoyó en esto, sí, por lo menos una cosa que nos hizo como sugerir, estábamos como apagaditos,
nos quedamos como dormidos.
Vous êtes réveillé.
Sí, estamos agradecidos de que él se haya preocupado por nosotros.
On est vraiment,
pour nosotros, los que no sabíamos nada.
Heureux qu'il se soit occupé de nous, nous qui ne sommes rien, quoi, qui n'avons rien.
¿Cuál es? Bueno. recuerdo a mangas, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son cinco minutos, la vida es eterna en cinco minutos. Suena la sirena, de vuelta al trabajo, y tú caminando, lo iluminas todo, los cinco minutos.
Dans un moule ruisselant, un temple de l'hyperconsommation, ce qui restera comme le symbole de l'ultralibéralisme. Ces moules, on n'en a pas encore vraiment comme celui-là en France. Hein. Ça ruisselle d'objets de consommation, de pognon, de clinquants. Là, il y a un grand arbre de Noël. Les gens attendent, mais il va y avoir un spectacle sans doute à nouveau. Toutes les 2-3 heures, il y a quelque chose qui se passe quoi, devant cet arbre de Noël offert par Johnny Walker. Et par tout évidemment publicitaire, commercial. Et les gens sont. Ça se presse, ça se précipite. Moi, j'ai jamais vu de ma vie. Une ville avec autant de contrastes entre ce quartier est.
Ah, les feux d'artifice commencent.
Nous voilà à l'est de Caracas, dans le quartier de Chacao, Altamira. Et effectivement, ce mall, on s'en lasse pas, est vraiment un endroit de l'hyper-consommation, du délire consommatoire. Et avec tout un public repu, gavé, qui traîne un certain ennui, il faut bien dire, à la veille de ces fêtes de Noël ce dimanche. Effectivement, Caracas offre le spectacle d'une ville incroyablement contrastée et évidemment qu'entre ces riches, très riches, arrogants et qui jouissent en fait dont la fortune ne provient d'une rente. C'est un capitalisme rentier. C'est même pas un capitalisme productif, d'aventure, d'entrepreneurial, etc. C'est des gens qui vivent d'une situation qui est cette fameuse rente pétrolière. Et voilà, quiconque. Alors, comme le pétrole, ça vient naturellement, mais ils pensent que leur bonne fortune est tout à fait naturelle, que tout cela est tout à fait naturel. Ce que vient renforcer, évidemment, depuis des années, l'idéologie néolibérale. Et de l'autre côté, et c'est pas 50-50, hein, puisque c'est deux tiers, enfin selon les calculs, de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté, avec environ 20% qui vit largement, et une 10%, 5 ou 10% qui vit d'une façon mais incroyablement luxueuse, avec jet privé, yacht, un petit saut de puce pour aller faire les courses à Miami ou à Madrid, ou passer quelques jours en Suisse et puis revenir, etc. C'est un contraste absolument extraordinaire. Et cette opposition qui aujourd'hui est complètement aplatie, inexistante, en parler d'ailleurs, ça revient presque à tirer sur une ambulance. Il n'est pas allé de main morte dans le débat hein, au sujet de ces missions Robinson qui ont eu le mérite d'alphabétiser quelques centaines de milliers de Vénézuéliens, on parlait d'injecter le communisme dans les veines du Venezuela. On a parlé de génocide. On a parlé, ici c'est le Burundi, nous disait quelqu'un, dit, mais c'est quoi le Burundi? Eh bien ici c'est un génocide. Enfin voilà, cette opposition a été particulièrement excessive. Aujourd'hui, elle est encore une fois, il faut le dire, aplatie, écrasée, laminée. Mais quand même, dans ce môle, ce jour-là, cette dame d'origine française n'a pas sa langue dans sa poche.
Nous-mêmes,
on sait que même à l'ambassade de France, ils sont pour Chavez et on a été obligé d'aller faire de la casserole devant l'ambassade.
Ah, la casserole à l'ambassade.
Si, la casserole à moi, le français.
Oui, on a joué la casserole pour les Français.
Est-ce que vous avez pensé à partir?
Si on pouvait partir, ouais, on partirait.
Porque la represión que tienen es terrible. Él da una cara en el exterior y otra aquí.
La
porque tiene petróleo y lo respalda. Yo también estaba muy disgustada.
Oui, puis on est vraiment pas content de.
Mi papá.
Avec les Français qui appuient les chavistes. Et mon père, à moi, il était français.
Y el día que hicimos una marcha. El día que hicimos una marcha para el mundo, que iba todos los hijos de los extranjeros que viven aquí. Nosotros fuimos con nuestra bandera francesa.
Et on a fait une marche. Et tous les étrangers, on est allés avec notre drapeau français. Et voilà que maintenant vous nous trahissez,
no
les Français.
Traicionaron nuestro.
Bande de traîtres.
Les patries, comment que?
Les enfants de la patrie, non se vale.
Ça va pas, ça, on n'est pas d'accord.
Alors, ces deux habitantes de ce quartier aisé de Caracas anticipent un petit peu, ils s'en foutent beaucoup pour que les Français aient soutenu Chavez. Mais quoique aujourd'hui, le succès électoral et puis le succès économique fait qu'on est en train un peu de revoir la façon dont on voit et ce pays et le gouvernement vénézuélien. Une autre rencontre avec, toujours dans le même décor, dans ce même mall, avec une homonyme.
Et je suis Madame Cecilia Chavez.
Chavez?
Oui, rien à voir avec Monsieur le Président. Je suis agent de voyage.
Qu'est-ce que ça doit être de s'appeler Chavez depuis... Ça doit être extraordinaire de s'appeler Chavez, non?
Oui, extraordinaire. Tout le monde, Chavez, oh Chavez. Chaque fois que j'attends le téléphone, Chavez, oh.
Alors vous vous promenez aujourd'hui, là c'est votre promenade du dimanche?
Oui, on a sorti les deux, on fait du temps avant d'aller à la messe.
La messe du dimanche, parce que vous êtes catholique?
Oui, on est catholique.
Ah oui, mais comme Chavez aussi, il est catholique.
Oui, il est très catholique.
Et vous habitez le quartier?
Sí, también en Chacao.
Oui, en Chacao.
Que a nosotros antes no nos interesaba la política.
Nous, avant, on ne s'intéressait pas à la politique.
Pero ahora, sí, ahora nos metemos en todo.
On se met dans toutes les histoires, on s'occupe des manifestations, on va partout, quoi.
Alors, on a un peu peur. On a peur parce qu'on n'est pas respecté comme opposition.
Ah là, je crois que c'est les illuminations de Noël qui commencent, alors tout le monde se presse. La grande animation dans la galerie commerciale.
C'est extraordinaire ce qu'on voit là. Il y a un feu d'artifice, du feu de Dieu, sono infernal. Et les gens sont assez indifférents. Bon, c'est vraiment les enfants gâtés, les enfants cavés qui se baladent là. Ils sont contents. Mais bon, ça pourrait être autre chose.
Les enfants gâtés, les enfants gavés qui ont un peu peur qu'on leur enlève leurs jouets, qu'on leur enlève leurs privilèges et qui trouvent que tout ça, ils l'ont bien mérité et qu'il sera absolument, il est absolument injuste qu'on leur enlève quoi que ce soit de tout ça.
Caricature, vous êtes en train de dire oh là là, quand même, alors caricature là, vous caricaturez. À peine, hein, à peine. Je crois même qu'on caricature pas du tout cette ville de Caracas. Mais on va quitter les gâtés, gavés et les bobos avec leur fragilité et pour rencontrer des gens qui sont dans l'opposition à Chavez et qui essayent de commencer à s'organiser, sachant que, bon, puisque le coup d'État, ça n'a pas marché, puisque les grèves patronales, le lockout, le fameux lockout qui a fait reculer ce pays, la fameuse grève pétrolière qui a fait reculer le pays, ben, tout ça, ça n'a pas marché, alors il va bien falloir construire une véritable opposition à Chavez et installer une nouvelle distribution de la vie démocratique de ce pays qui est un pays démocratique. Hein, il ne faut pas oublier ça, c'est un facteur important. Pas, Amérique latine, pour nous, hop, c'est des coups d'État, etc. Ce n'est pas le cas du Venezuela. Le coup d'État de 92 à l'initiative de Chavez n'a pas marché. Et celui de 2002, à l'actif de cette opposition, n'a pas marché non plus. Alors, ça ne veut pas dire du tout qu'un jour ou l'autre, ce risque disparaît. Mais en tous les cas, on essaye de se dire, bon ben voilà, désormais, on a perdu. C'est ce qu'on se dit dans l'opposition, une opposition très composite hein, qui va de la droite, des néolibéraux, en passant par une gauche, voire même une extrême gauche qui est opposée à Chavez. C'est une coalition assez hétéroclite. Et aujourd'hui, bon ben voilà, on a perdu. On essaye de voir comment on pourrait imaginer une opposition différente. Et c'est ce qui préoccupe les personnes que nous rencontrons, notamment Malena, qui appartient à une petite association qui s'appelle, un petit mouvement qui s'appelle Gusano de Luz, ce qui veut dire le ver luisant, quand les bobos entrent en résistance.
Moi, je suis née dans un pays où il y a de civils toujours dans les pouvoirs. Actuellement, avec Chavez, qui est un militaire, tous les pouvoirs sont pris par les militaires et puis lui. Il faut dire que l'autoritarisme qui vient du militaire, qui vient de ce cas de Chavez, c'est un autoritarisme qui a un visage de démocratie, une sorte de masque de démocratie, mais tout au-dessus, il y a le militarisme qui commence à avancer d'une façon chaque fois plus fort. La société civile commence à faire l'autocensure. Actuellement, je sens que dans la société, et on le voit dans les gens qui sont comme nous, qu'ils commencent à se taire. Ce n'est pas tout à fait d'un seul coup, hein, mais on commence à sentir comme un poids assez fort qui commence à faire des pressions pour qu'on ne parle pas de la même façon qu'on avait l'habitude. Alors, pour nous, et pour une personne comme moi, que moi je parle justement de l'expression, je suis cinéaste, pour moi c'est très important ça. Alors je commence à voir qu'il y a un arrêt.
Est-ce que vous avez pensé à partir? Parce que vous nous dites qu'il y a beaucoup de jeunes qui font la queue aux ambassades pour fuir le pays.
Oui, il y a pas mal de gens, surtout les gens sont ceux qui commencent à voir un futur qui n'est pas tout à fait clair. Moi, je pensais une fois, je peux vous le dire, moi, je voulais partir avec mes enfants, mais puis après, avec mon mari, qui est une personne aussi cinéaste, qui a lutté énormément contre tout ce qui commence à se former dans le pays, on a décidé de rester. Et voilà, on va rester, mais on va résister et on va travailler tout le temps pour que la démocratie qu'on a vécue, avec laquelle on est habitué, évidemment avec ses torts, parce que la démocratie a beaucoup de torts, et on a eu beaucoup de torts, surtout dans le cas spirituel, dans l'éthique. Qu'est-ce qui a passé ici dans ces pays? Pourquoi les pauvres sont partis? Pourquoi les pauvres se sont donnés au discours de Chavez? Justement parce que la démocratie a eu des problèmes énormes de se rapprocher aux autres, aux pauvres.
Mais vous ne regrettez pas l'avant de Chavez? Si vous pensez que c'était mieux avant de Chavez?
Moi, évidemment, c'était mieux parce qu'on n'avait pas de totalitarisme à cette époque-là. Moi, je suis contre...
Vous pensez que c'est le totalitarisme actuellement?
Évidemment, mais c'est un totalitarisme qui a un visage différent. C'est pas facile de le mettre dans le totalitarisme parce que Chavez, comme personnage, il est très, très habile. Et plus que ça, il est très intelligent. L'opposition a pensé qu'il n'était pas tout à fait intelligent, mais tout à fait, c'est le contraire. Et il sait très bien comment manipuler la population. La plupart des gens, les pauvres, c'est les 80%. C'est énorme, c'est un nombre énorme.
Malena,
mais que Chavez...
Oublions un petit peu de Chavez. Hein. Oublions un petit peu de Chavez, une minute si c'est possible. Vous êtes impliqué maintenant dans la politique. Qu'est-ce que vous pensez faire, vous, contre cette situation de 80% de pauvres et de 20% de riches dans un pays riche? Quelle serait pour vous une voie possible pour le Venezuela, en oubliant Chavez?
Je crois que l'opposition, à mon avis, doit se maintenir en faisant chacun à leur boulot. Chacun en faisant les gens qui peuvent travailler avec la question sociale, il faut le faire parce que si je crois que tout le monde doit donner leur main aux pauvres d'une façon ou de l'autre. Il faut s'organiser, il faut faire des citoyens pour aider l'autre qui habite probablement à côté de vous. Parce que c'est ça justement, on n'a pas vu l'autre.
Je comprends. Alors, mais depuis 6 ans, vous avez mené des actions en direction des déshérités, des pauvres?
Et pas tellement.
C'est ça.
Parce qu'on n'a pas eu le temps assez. On était toujours en opposition. Je crois qu'on doit se rapprocher aux pauvres. Et,
par exemple,
j'ai un projet d'éducation, des formations éthiques des citoyens avec de propositions audiovisuelles de 20 minutes, par exemple, de le mettre dans les assemblées, de le mettre dans les groupes, pour que les gens puissent avoir une connaissance de ce que ça veut dire être un bon citoyen, en faisant attention...
Il faut manger d'abord, avant de regarder... Il faut d'abord manger.
Ah oui, manger quoi?
Les gens ont besoin de manger d'abord.
Évidemment. Avant de la morale, il faut manger d'abord.
Oui.
Avant de la morale. Oui, mais je ne peux pas donner de manger.
C'est ça.
Comprenez.
Alors,
je suis un professionnel de l'audiovisuel, je peux donner de l'éducation, je peux donner... Les citoyens, comment il faut faire un citoyen, un vrai citoyen? À quoi il doit s'occuper? Il doit s'occuper d'un instrument, de l'ordure, vous savez,
de ramasser les ordures. L'éducation.
De l'éducation, de justement ce qui est l'ABC de l'éducation. Alors, si on fait l'éthique, l'amour pour l'autre, ça, il faut y penser.
Oui, ça ne mange pas de pain. Ben oui, voilà. Enfin, je rigole un petit peu. En fait, Milena est tout à fait quelqu'un d'honnête, qui tâtonne, qui cherche un petit peu comme nous tous. Elle parle comme on parle dans ce milieu aujourd'hui à Caracas. Mais là, toujours contraste, on passe de l'est à l'ouest de la ville et on revient dans cette école où a lieu cette formation d'alphabétisation. Je dis école, c'est quand même une école un petit peu en loc. L'éducation nationale a été laissée à l'abandon pendant des années dans ce pays, qui encore une fois, il faut le répéter, est un pays naturellement riche à cause du pétrole, et qui a connu un boom pétrolier fabuleux il y a quelques temps. et qui malgré cela eh bien, a laissé plus d'un million et demi de Vénézuéliens illettrés, c'est-à-dire près de 9% de la population âgée de plus de 10 ans. Et en soi, rien que ce chiffre-là est évidemment accablant pour les politiques qui ont été suivies jusque-là, qui ont été des politiques absolument inégalitaires. Ce qui est important à dire concernant le Venezuela, c'est que quelque chose, une campagne comme celle de cette alphabétisation n'est pas de nature, c'est pas l'ONG associative, charitable, généreuse, avec toujours ce parfum paternaliste qu'on respire, que vous connaissez et que nous-mêmes, on a si souvent rapporté de nos reportages. Non, là, cette fois, c'est l'État tout simplement qui a l'ambition, la prétention, tension toute simple, toute bête, de faire son boulot. Je ne crois pas qu'il y ait une révolution si considérable que ça au Venezuela. C'est simplement l'éducation, simplement des choses très très simples que nous avons, nous, mais qui n'étaient pas arrivées encore dans ce pays et qui, voilà, avec en se référant à Bolivar, pourquoi pas, ou à Robinson, la mission Robinson, c'est le nom d'emprunt du précepteur de Simon Bolivar. C'est pour ça que ça s'appelle la mission Robinson. Et voilà comment ça se passe.
Francisco García Cadena.
Alors, et Francisco, là, vous êtes en train de suivre votre cours d'alphabétisation. Quel âge vous avez, Francisco?
C'est 68 ans.
68 ans.
Et maintenant, vous êtes retraité.
Oui.
Et alors, quand on arrête de travailler au Venezuela, on touche une retraite?
Non, le dan nada.
Non, rien du tout.
Ahí lo único que me dan es, pongamos, ahorita son los hijos míos.
Moi, on m'a rien donné, le gouvernement m'a rien donné, c'est juste mes enfants qui m'entretiennent.
Ah oui, c'est pour ça qu'il faut avoir beaucoup d'enfants. Alors là, c'est votre premier cours d'alphabétisation?
Sí, la primera vez.
C'est la première fois.
Primera vez en mi vida que me siento en un pupil de
C'est la première fois de ma vie que je suis assis comme ça dans une classe sur une chaise avec un bureau.
No tuve oportunidad.
Parce que c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion moi d'apprendre auparavant.
Digamos, mis padres dieron un campo, yo tampoco sabía nada, comprendo.
Ahora
pongamos, después que yo crecí, me salí al pueblo, entonces saqué a los hermanos míos para que estudiaran.
Ouais. Puis quand moi j'ai grandi, c'est moi j'ai bossé, c'est mes frères qui ont pu étudier. Moi j'ai tout le temps bossé, donc j'ai rien pu apprendre. Et aujourd'hui c'est la première fois.
Alors quel est le problème?
C'est pour ça que vous voyez là sur mon cahier, mes lettres elles sont pas très droites, elles sont pas très bien faites.
Ah c'est pas mal, hein. Et le premier mot que tu écris c'est casa. La maison.
Correct.
Et les chiffres aussi?
Non, mais tu es commençant à apprendre à faire
les lettres. Bah non, les chiffres, je ne sais pas encore. Là, vous voyez, j'ai appris encore à faire les lettres C, A, S, A.
Je ne sais ni firmer la firma mia.
Tout ce que je savais écrire jusqu'à maintenant, c'était faire ma signature.
Comme dice le dicho. Conozco muchas cosas, pero no.
Je sais beaucoup de choses, en fait, mais je ne sais pas écrire.
Bah oui. Et bueno, no era igual como antes, como ahorita, no era igual antes.
C'était pas pareil avant, quoi.
Si no trabajaba, no comía. Si había real, no nada.
Tu mangeais pas, parce que ce qu'il faut, c'est l'argent avant tout.
Ahorita no, porque ahorita Chávez las está ayudando a muchas personas.
Bah, on pouvait travailler, gagner ta vie et dormir, ça allait. Mais Chávez, lui, il aide beaucoup de gens à faire plus que ça.
L'unique gobierno que ha ayudado a todo el mundo es este.
De toute façon, tous les autres gouvernements qu'il y a eu avant, aucun ne m'a aidé. Là, c'est la première fois, justement, qu'il y a un gouvernement qui se met en tête de m'aider.
Je te dis, nunca en mi vida había estado en...
Jamais dans ma vie, on m'a proposé de pouvoir apprendre. Moi, j'ai toujours cherché simplement la manière de m'en sortir, mais là...
Tu trouves que c'est mieux avec Chávez ou bien quoi?
Ah, correcto.
Ah oui, bien sûr.
Et est-ce que tu étais là pendant le coup d'État, là? En 92, tu étais déjà dans la rue pour soutenir Chávez.
Correcto.
Oui, bien sûr.
Mire, le jour que ganó Chávez, je l'ai célébré, mais je dis que vamos a ver si cambiamos un gobierno por otro.
Le jour où Chávez a gagné, moi j'ai fait la fête, là, on allait voir si enfin ça allait changer.
Hay muchos que dicen que no, que
tal, y bueno. Il y en a qui disent que non, que ça change rien, mais bon.
Et comme dit le dicho, entre que uno no sabe leer un libro ou una cosa, uno no se da cuenta cómo la vie.
Si tu sais pas lire, tu sais pas ce que c'est que la vie, quoi. Où ça peut aller, quoi.
Thank you.
retour au Venezuela. Et c'est vrai que c'est eux qui ont les plus belles musiques, hein, quand même. Enfin, pas seulement le Venezuela, mais l'Amérique latine de façon générale. Reportage avec Guy Van Til et Antoine Chao. À lire Le Venezuela de Chavez de Maurice Lemoine aux éditions Alternatives. Et puis demain, mercredi à 18h, face à l'ambassade du Mexique, rassemblement contre la vague de répression à Oaxaca. L'ambassade du Mexique, c'est 9 rue de Longchamp à Paris, dans le 16e arrondissement. Voilà, à 18h demain. Toutes les informations sont disponibles sur le site de franceinter.com à la rubrique émission Là-bas si j'y suis, ainsi que sur le site là-bas.org, là-bas.org, où vous pouvez réécouter cette émission et beaucoup d'autres émissions. Il y en a bientôt 1000 qui sont mises en ligne, je le rappelle, par un auditeur bénévole sur ce site. À la technique aujourd'hui, Jessica Fouché et Dimitri Gronoff. C'est Yann Chouquet et Koyen Guyen qui ont réalisé cette émission, assisté de Pascal Le Pascariello et de Christophe Imbert pour le répondeur, dont le numéro est le 01 56 40 37 37. Réclame.